Radio Campus 106,6 FM, il est exactement 17h30. Nous sommes donc dans le cadre du magazine USTL Info avec Jean-Philippe Cassard. Bonjour Monsieur Cassard.
Bonjour.
Donc vous êtes professeur des universités, vous travaillez à Polytech Lille au département IAAL, vous allez peut-être nous expliquer ce que recouvre ce sigle. Vous êtes également vice-président chargé de la valorisation des potentiels humains de l'USTL, c'est d'ailleurs à ce titre que je vous reçois pour nous parler de la richesse de l'université, de ses personnels donc. Donc bienvenue à Radio Campus, l'IAAL.
Alors, effectivement, un mot sur l'IAL, donc Industrie Agroalimentaire de Lille. Mm-hmm. Donc, c'était une école d'ingénieurs qui a fusionné avec le DIL pour former Polytech Lille, et donc qui est maintenant un département de cette école, et qui est une composante importante de l'université, je pense.
Alors justement, le fait de regrouper des écoles dans une plus grande, qui s'appelle Polytech Lille, ça leur donne, enfin, ça donne à chacune plus de poids, et ça peut permettre de parler plus haut, plus fort.
Ben, il y a eu deux aspects, c'est que effectivement, en termes de communication externe, en termes de, par exemple, de relations internationales, le fait que les deux écoles se regroupent, on a eu un aspect de renforcement, c'est clair. Hein. Et puis, l'école fait aussi partie d'un réseau de 11 écoles au niveau national. Et là aussi, en termes de visibilité, d'organisation de concours, il y a toujours intérêt à travailler en réseau. Je pense que l'aspect collaboratif permet de nous rendre plus puissants.
Alors, vous êtes dans un très beau bâtiment, il faut le dire.
Oui, tout à fait.
C'est un des plus beaux de l'Université de Lille.
C'est un des plus beaux, mais je pense que ça tient beaucoup au travail du directeur de l'époque, hein, Pierre Legrand, qui en a fait son œuvre, je dirais, hein, et qui a suivi dans le détail vraiment toutes les étapes de la conception jusqu'à la réalisation.
On peut dire que c'est une œuvre architecturale en même temps, hein ?
Ah, tout à fait, oui. L'architecte a été quelqu'un de à la fois inspiré et de très à l'écoute, je pense, des besoins des utilisateurs.
Alors, l'architecte n'est pas diplômé de Polytech.
Et non.
Et donc, ça fonctionne bien sûr avec des appels d'offres et des concours, je suppose, hein, projet d'architecture, quand on veut créer un lieu dans ce genre-là.
Alors là, vous sortez un tout petit peu de mes prérogatives, mais c'est effectivement...
C'est pas forcément quelqu'un du
Ah non, pas du tout. Hein. Du coin, dans la construction des bâtiments, que ce soit les bâtiments de l'USTL Culture, la maison des étudiants qui vient d'être terminée, là, qui va ouvrir bientôt, ou le bâtiment Polytech, à chaque fois, il y a effectivement un appel d'offres, hein, avec plusieurs projets qui sont proposés et une commission des marchés. Qui détermine quel est le projet lauréat et ensuite quelles vont être les entreprises. Donc de nouveau, il y a des marchés qui sont ouverts au niveau des entreprises pour les différents lots. Donc on respecte tout à fait les mêmes procédures que nos autres organismes comme le conseil régional.
Alors une fois que la structure est bâtie et qu'elle est belle, est-ce qu'elle accueille plus facilement des professeurs et notamment des professeurs illustres ou émérites ?
Ah, est-ce que c'est un élément d'attractivité pour les enseignants? Bon, ça c'est pas forcément, je dirais pas que les recrutements n'ont pas été de gens illustres, hein, mais c'est surtout je pense qu'au niveau des étudiants, c'est quand même un élément important. Quand ils viennent pour les auditions, concours, ils se sentent tout de suite à l'aise en rentrant dans ce bâtiment, et pour un certain nombre, ça les incite à choisir Lille plutôt qu'une autre ville, et ça je crois que c'est important.
Mm-hmm. Alors, c'est ce qui motive ces étudiants, bien sûr, ou ces élèves. Bon, peut-être qu'il y a une nuance que vous préciserez. Ouais. C'est bien sûr l'accueil, c'est aussi l'encadrement des enseignants, la qualité de l'enseignement. Donc on peut dire que la qualité de l'enseignement et de l'enseignant valorise ou met en peut-être quelque part aussi en compétition la structure.
C'est sûr que l'aspect qualité de l'enseignement est un élément qui est de plus en plus pris en compte par les étudiants, hein, au moment de leur choix leur choix d'études, hein, de structure, bon, ils sont attentifs à la qualité de l'encadrement. Bon, je pense qu'au niveau de Polytech Lille, il y a eu des efforts importants de fait dans ce domaine-là, et le fait de regrouper des écoles, bon, il y a des travaux qui ont été faits, des travaux transversaux qui ont été faits, par exemple, sur l'encadrement des stages, sur les projets, sur l'évaluation des enseignements, donc un certain nombre d'éléments qui améliorent, en fin de compte, nos procédures et notre qualité de relation avec les étudiants, ça c'est clair.
Alors, on a bien compris, l'enseignant et l'enseignement sont les clés de la réussite de l'établissement et donc des élèves, des étudiants. Ouais. Donc en fait, le capital, on peut dire.
Ah,
aussi.
Oui. De... Ah oui, ben, si j'ai voulu qu'on institue cette émission personnel richesse de l'établissement, c'est sûr de l'université, c'est que c'est vrai qu'imaginer une université sans personnel. Ça serait d'abord une université sans étudiants. Mmh. Et puis ça serait quoi? Ça serait des bâtiments, aussi beaux soient-ils, des pelouses, des arbres, mais qui finiraient par, ben, par péricliter. On aurait de la forêt vierge, des bâtiments qui se dégraderaient. Donc une université sans personnel, on ne peut pas l'imaginer.
Hein. Mmh, bien sûr.
Donc c'est notre richesse de base. Hein,
on a beau dire qu'on va vivre dans une civilisation du multimédia, mais rien n'emplacera l'enseignant.
De toute manière, derrière le multimédia, il y a des enseignants.
Alors, des enseignants, quand on dit enseignant, on veut dire enseignant-chercheur pour ce qui nous concerne.
Alors, dans le personnel enseignant, il y a des enseignants-chercheurs, il y a aussi des enseignants, des enseignants du second degré. Hein, donc, on a les deux catégories de personnel sur l'université, avec des missions qui sont différentes, bien évidemment. L'enseignant-chercheur a comme première mission de créer de la connaissance à travers la recherche. Hein, ça, c'est une mission, je dirais, qui est très importante parce que c'est aussi l'avenir de l'université, mais aussi l'avenir de la société. Hein. Les évolutions de la société, qu'elles soient technologiques, bien sûr, à travers le progrès technique, à travers les progrès au niveau des sciences fondamentales, les sciences « dures », entre guillemets, mais aussi l'accompagnement de toutes les évolutions de la société à travers la sociologie, l'économie. Donc, et c'est cet ensemble-là qui fait la richesse aussi des sociétés que l'on pourra construire demain. Hein. Sans ce travail de recherche fondamental, les sociétés sont un petit peu laissées à elles-mêmes dans leurs évolutions. Quoi.
Voilà, alors on a un peu quand même l'impression que les recherches fondamentales sont laissées à la charge de l'État et que les recherches qui sont plus du domaine de l'application technologique, industrielle, sont beaucoup plus faites en partenariat avec les entreprises privées, non ?
C'est une question compliquée, hein. Celui du financement de la recherche. Actuellement, je dirais même pour la recherche fondamentale, mais je crois que c'est vrai pour l'ensemble de l'enseignement supérieur, la contribution de l'État est insuffisante pour prendre en compte les missions de l'université. Que ce soit en enseignement, que ce soit en recherche. Alors maintenant, la différence, effectivement, c'est qu'une recherche fondamentale, c'est beaucoup plus difficile à financer sur le marché, je dirais, de contrats industriels, hein, que une recherche plus appliquée où, je dirais qu'à moyen terme ou à très court terme, il y a un produit qui peut être valorisable. Donc c'est une des difficultés de la recherche fondamentale. Ceci dit, même pour les recherches de nature appliquée, ce fonctionnement en contrat, hein, est aussi quelque chose de très déstructurant. Parce que ça veut dire que ce qui est premier, c'est la demande de l'industriel. Et quand on fait un contrat, en fin de compte, même un contrat de recherche, on est dans une perspective d'un rendu de service et pas forcément d'une création de connaissances.
Quoi. D'accord. Alors, quand on parle de contrats, c'est deux types de contrats. Il y a les contrats avec les entreprises. Bon, il y a peut-être aussi le contrat avec l'État, peut-être qu'on peut parler, l'État et ta région. Ouais. Et puis, il y a aussi le contrat avec les personnels. Donc, trois types de contrats, en fait. Donc, est-ce que ces personnels sont recrutés aussi en fonction du développement, entre guillemets, des marchés?
à la question du recrutement du personnel, alors, on a plusieurs catégories de personnel hein, sur l'université. On a des personnels titulaires, hein, donc, dont les règles de recrutement répondent à un certain nombre de critères qui sont liés à la réglementation et au statut des différents corps de personnel. Bon, et puis on a aussi des personnels contractuels. Hein, pour une part, pour pallier au manque de moyens attribués par l'État en termes de personnel titulaire, hein, et pour une autre part, pour répondre à des besoins ponctuels, dont les contrats de recherche, mais aussi éventuellement le développement de projets ponctuels en pédagogie ou en création de supports multimédia, par exemple.
Alors, quand on prend par exemple le cas des universités américaines, des États-Unis, elles recrutent des universitaires étrangers. Est-ce qu'en France, on peut qualifier des universitaires étrangers ou des chercheurs ou des personnels qui ne sont pas français? On peut les employer? Est-ce qu'ils peuvent être notamment professeurs d'université?
Tout à fait. Donc en France, actuellement, le statut des enseignants-chercheurs est dérogatoire au statut de la fonction publique, hein, qui normalement ne permet que le recrutement de ressortissants français. Et pour les enseignants-chercheurs, donc les maîtres de conférences et les professeurs, peuvent être des étrangers. Et actuellement, sur l'université, nous recrutons régulièrement des collègues étrangers. En mathématiques, ça s'est fait beaucoup parce qu'il y avait des collaborations fortes entre les laboratoires de Lille et des collègues de l'ex-Union soviétique.
Je sais que régulièrement en mathématiques, il y a un colloque ici de mathématiciens qui se regroupe à la MAC ici.
Hein. Oui, tout à fait. Oui. Et puis, c'est vrai que le domaine de la recherche étant un domaine très international, il y a des échanges avec des collègues de différentes universités, de différents pays, et qui peuvent conduire certains collègues à un moment à saisir une opportunité d'un poste chez nous et à venir. Donc on a des collègues belges, on a des collègues bulgares, on a des collègues du Maghreb, on a des collègues de différentes origines.
Alors, ce qu'on constate, ce qu'on connaît par exemple des procédures, des choses qui existent pour faciliter la mobilité des étudiants, par exemple Erasmus ou des choses comme ça. Là, on parlait tout à l'heure de la Chine, il y a aussi des programmes qui permettent aux étudiants d'aller à l'étranger. Est-ce que les enseignants ont aussi des facilités à exporter non seulement leurs connaissances, leurs compétences, mais aussi peut-être l'image d'une université ou d'un pays?
Alors ça, c'est plus le domaine des relations internationales, mais en fin de compte, il existe aussi des programmes d'échange pour les personnels enseignants, qui permettent effectivement soit de construire des programmes de formation commune, hein, parce que quand il y a des échanges d'étudiants, souvent au départ, il y a eu des échanges entre les enseignants pour construire des programmes d'échange ou quelquefois des diplômes communs ou des diplômes, des doubles diplômes. Hein, donc les dispositifs sont très très variés. Bon, ceci dit, actuellement, on peut regretter que ces échanges soient pas assez répandus. Mais c'est aussi lié, je pense, aux conditions de travail des personnels enseignants-chercheurs et enseignants actuellement dans l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que déjà, rien que pour assumer les différentes missions qui sont les leurs à l'intérieur de l'université, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine des responsabilités administratives, dans le domaine du transfert vers les industriels, ces différents domaines, dans le domaine de l'accompagnement des étudiants, de leur orientation, de la réussite. Quand on voit toutes ces missions, il est difficile de dégager du temps en plus pour aller voyager à l'étranger, construire des projets avec d'autres collègues. Ça, c'est clair.
Alors, si on part du principe exposé récemment que la moitié des personnels qui seront en retraite dans le monde des fonctionnaires ne seront pas remplacés, est-ce qu'on peut s'attendre à des difficultés? Est-ce que l'université a des personnels jeunes ou âgés?
Alors, vous parlez d'un cauchemar pour le vice-président chargé de la valorisation du personnel. Bon, pour le moment, ce que la ministre, dans sa grande bonté, si j'ose dire, nous a accordé, c'est qu'on n'avait pas de suppression de personnel cette année. Mmh. Hein, donc, par contre, il y avait des moyens ont été alloués pour revaloriser un certain nombre de postes pour améliorer l'encadrement de l'université. Hein, parce qu'on a une structure qui fait qu'on a à peu près 40% de catégorie C, donc de gens, je dirais, des plus basses catégories, hein, qui ont leur rôle et qui ont leur importance dans l'université,
dans lequel
l'université ne pourrait pas tourner. Mmh. Par contre, c'est vrai qu'on a une énorme faiblesse au niveau de l'encadrement de haut niveau, parce que les enjeux, hein, je rappelle quand même, hein, plusieurs centaines de millions d'euros de masse salariale, mmh. hein, une centaine de bâtiments, 2500 personnels, 20 000 étudiants, ça ne se gère pas, hein, c'est quasiment l'équivalent d'une petite ville ou d'une entreprise. Bon, ça ne se gère pas sans un certain nombre de personnels qui sont des spécialistes de chacun de leurs domaines. Donc, mmh. Et là, on est en faiblesse forte. Donc D'accord. on a besoin de rehausser. Donc, alors ce qu'on nous a accordé, hein, pour, je me permets,
Bien sûr.
Cette année, c'est effectivement le rehaussement de 7 emplois, c'est-à-dire une augmentation financière de 1 millième de notre masse salariale.
Sur l'ensemble de l'université
de Lille. Sur l'ensemble de l'université de Lille. Mmh, donc c'est pour montrer l'effort que le gouvernement et le ministère fait pour soutenir l'université dans ce domaine-là. Quoi.
Bien. Si on compare à d'autres universités en France, on situe comment, Lille?
Alors si j'écoute les conseillers du ministère, nous sommes une université bien dotée. Si je regarde la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein. On est une université qui est une université, je dirais, qui se situe dans les 20 premières universités françaises, hein, en prenant à peu près tous les critères confondus, et en taille, c'est à peu près pareil. Hein, donc, on a la particularité d'être une université à la fois scientifique, mais pas une université généraliste. Hein, donc, on a aussi des formations dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, économie, sociaux, qui viennent, gestion, hein, qui viennent un peu donner un autre paysage. Hein. On est une université scientifique, il y a très peu d'universités comme la nôtre. Hein. Mm-hmm. Mais on n'a pas non plus, comme d'autres universités, par exemple, de la région, de lettres, de droit ou de médecine. Hein, donc...
Alors, si on prend les enseignants, est-ce que un peu ou beaucoup d'enseignants sont issus des étudiants qu'ils forment ?
Alors ça, c'est un indicateur qui est suivi de très près par le ministère, qui est aussi une question importante pour l'établissement, hein, parce que le renouvellement, hein, le fait de ne pas recruter que les étudiants qu'on a formés, c'est aussi apporter des contacts à l'extérieur, des réseaux, une richesse d'une vision différente qu'il faut intégrer. Ceci dit, il faut aussi que donner des perspectives aux étudiants qu'on forme. Hein, donc il y a un compromis à faire. Bon, et actuellement, je dirais qu'on est dans la moyenne des universités françaises en termes de recrutement extérieur. Hein, alors ça dépend beaucoup des disciplines, c'est vrai aussi. Les mathématiques ne recrutent aucun étudiant issu de l'ILA. Et puis il y a d'autres disciplines qui recrutent très peu à l'extérieur. Donc là aussi, il faut faire évoluer les pratiques, hein, pour arriver à quand même ce qui est un renouvellement quand même culturel, hein, au niveau de la science et au niveau aussi des hommes, je pense.
Alors pour les gens comme moi, par exemple, ouais. qui ont assisté au développement de l'université depuis la fin des années 60, ouais, ouais. Effectivement, le nombre d'étudiants, donc de personnes à accueillir, à former... et à accueillir d'une manière générale, c'est beaucoup développé. Maintenant, on est arrivé à une certaine stagnation où ça reste constant à peu près.
Oui, on peut considérer que bon, il y a un maintien des effectifs. Mm-hmm. Hein, bon, en fin de compte, il faudrait parler d'une légère décroissance.
Oui. Hein.
Le problème, c'est que ce maintien des effectifs masque des grosses diversités de situations selon les disciplines. Mmh. Hein, c'est-à-dire que globalement sur l'université, les effectifs diminuent légèrement, mais par contre, on a des disciplines comme l'économie, la gestion, le marketing, où il y a un développement qui est important, mmh. alors que d'autres disciplines, j'irais plus traditionnelles de l'université, hein, comme les maths ou la physique, voient leurs effectifs baisser tout doucement Enfin bon, là il y a quand même une stabilisation actuellement. Hein, donc,
Alors je vois un certain nombre d'étudiants chinois notamment qui sont intéressés par la gestion, etc., ouais. le management, ouais. qui sont aussi bien à Lille intramuros que, enfin, Villeneuve-d'Ascq qu'à l'IAE par exemple.
Oui.
Donc sont les nouveaux métiers à la mode.
En tout cas, c'est ceux qui attirent les étudiants. Mmh. Bon, il y a des débouchés dans ces domaines-là, il n'y a pas de problème. Ce que le problème que ça pose à un vice-président chargé de la valorisation du potentiel humain, c'est que ça crée des grosses diversités de conditions d'exercice du métier d'enseignant-chercheur. Mmh. Hein, entre des composantes dont l'IAE dont vous avez parlé, mais aussi la faculté des sciences humaines et sociales, hein, économiques et sociales. Mmh. Hein. Mmh. Là, on a des enseignants qui sont obligés de faire beaucoup d'heures supplémentaires, qui encadrent beaucoup d'étudiants parce que il faut répondre à la demande. Bon, et à côté de ça, on a des composantes où bah, y a du personnel enseignant hein, qui fait de la recherche en général de très bon niveau aussi, mais qui n'a plus beaucoup moins d'étudiants encadrés. Et donc là, on a des disparités de situation. Tout le monde est, en fin de compte, a les mêmes objectifs hein, en termes d'enseignement et en termes de recherche, mais on n'a pas les mêmes conditions d'exercice.
Alors tout à l'heure, je parlais de la distinction entre élèves et étudiants, et ce n'est pas innocent. Est-ce que dans les écoles, il n'y a pas un encadrement supérieur au nombre, justement par rapport à l'université, aux licences par exemple? Est-ce que les élèves ne sont pas un peu favorisés dans leur encadrement et peut-être dans le suivi de ce qu'ils font?
Alors, c'est sûr que il y a des disparités hein, à l'intérieur de l'université entre les différentes composantes. Alors, il y en a des disparités qui sont liées à des éléments objectifs. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des disciplines qui ont moins de travaux pratiques, donc qui nécessitent moins de moyens directement d'enseignants. Ceci dit, cet aspect est en train aussi de disparaître parce que en économie, on a de plus en plus de travaux pratiques sur des chiffres, sur des données, donc sur ordinateur. Et là aussi, on se rapproche des conditions de discipline expérimentale, et ça il faut qu'on le prenne en compte. Mais il y a aussi des disparités qui sont liées à la différence entre formation professionnelle et formation classique, hein, je dirais. Mais je crois qu'il ne faut pas masquer que la grosse disparité, elle est quand même entre l'université et puis le reste des autres formations de l'enseignement supérieur. Hein. C'est-à-dire que je rappelle qu'un étudiant coûte deux fois moins cher. Hein. Les moyens qu'on donne pour un étudiant, hein, c'est deux fois moins que les moyens qui sont donnés, par exemple, à un élève de classe préparatoire. Hein, c'est une fois et demie moins qu'un élève d'une grande école d'ingénieurs. Bon, donc là, on a une vraie disparité qui pose des gros problèmes.
Alors, l'autre problème de ce taux d'encadrement, c'est aussi l'impression pour des étudiants qui arrivent à l'université, donc des élèves qui sortent du lycée ou de classe prépa, de se sentir un petit peu seuls, livrés à eux-mêmes et sans vraiment contrôle qui les encadrerait suffisamment pour rester bien, bien ancrés dans les études, non?
Oui, alors je pense que ça, c'est une vision qu'il faut qu'on change. Hein, parce que l'idée de toujours l'université, c'est des amphis de 800 étudiants, il n'y a pas d'enseignants pour les enseignants ne sont jamais dans leur bureau, on ne peut pas les rencontrer. Ça, c'est quand même des images du passé. Mmh. Actuellement, il y a eu d'énormes efforts de fait par l'ensemble des composantes de l'université pour améliorer leur accueil des étudiants, leur dispositif pédagogique. Actuellement, en première année de licence, hein, les groupes de TD, c'est 20 étudiants dans mmh. certaines disciplines. Hein, on est au même niveau que certaines classes préparatoires. Hein, peut-être que la différence, c'est qu'on demande à ces étudiants plus de travail personnel, hein, donc plus de rigueur, plus d'investissement, hein, mais parce que, bien sûr, on n'a pas les mêmes horaires hebdomadaires, hein, on n'a pas les moyens. Mais à côté de ça, il y a des dispositifs de tutorat qui se mettent en place, hein, et qui font que... Bon, et puis là, on est en train de réfléchir et de manière importante à un projet qui nous tient à cœur, qui s'appelle Réussite des étudiants en licence, hein, qui va aussi, qui vise aussi à mettre dans les composantes des personnels, alors là, pas enseignants, mais qui seraient des sortes de personnes relais de l'accueil, de l'écoute des étudiants, de la construction du projet personnel et aussi professionnel des étudiants. Et donc ces personnes-là, enfin, donc ça, tout ça, ça participe, hein, au fait que effectivement, on ne veut plus qu'un étudiant soit quelqu'un de perdu sur le campus et qu'il, au contraire, qu'il prenne en main ses études, hein, parce qu'il y a aussi un métier de l'étudiant. Hein, la réussite, c'est aussi l'investissement de l'étudiant par lui-même. Il ne faut pas l'oublier.
Hein. Bien sûr. Alors, on n'a pas forcément de recettes, mais il y a quand même des trucs.
Oui, il y a des trucs, bien sûr. Donc je pense que qu'il y ait des adultes dont le travail soit de dire à l'étudiant voilà à quelles conditions tu peux réussir, hein, vu là où tu en es, hein, de ton histoire personnelle, de ton histoire aussi scolaire, tu peux réussir dans tel domaine, mais c'est pas à n'importe comment. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des investissements, ça sera peut-être plus difficile pour toi que pour d'autres, mais on croit que tu peux y arriver. Ou lui dire carrément, vu le cursus que tu as fait, là tu es en train d'aller droit à l'échec, hein, parce que notre expérience nous dit cela, et il vaut mieux, et on va t'aider à trouver quelque chose qui à la fois corresponde à des motivations que tu as, et au parcours, et là où tu en es actuellement. Quoi, hein, donc,
Alors, Jean-Philippe Cassard, on a parlé beaucoup des enseignants, ouais. On a parlé des étudiants, mais il y a plein de personnels de statuts différents et de fonctions très différentes dans l'université sans lesquelles on ne peut pas faire grand-chose non plus.
Tout à fait, oui, j'ai envie de dire, les enseignants et les étudiants, c'est l'aspect visible du jardin, hein, université, hein, c'est celui où on voit les fruits, on voit les choses qui se développent, et puis il y a un terreau sur lequel ça se développe, hein, c'est le personnel IATOS, hein, donc avec ces personnels-là sont fondamentaux pour le fonctionnement de l'université. Il n'y aurait pas de laboratoire sans secrétaire, sans même, je dirais, sans personnel d'entretien pour nettoyer les sols, hein, sans technicien pour mettre en place les manips, sans ingénieur pour assurer le suivi dans le long terme d'un certain nombre de matériels scientifiques. Bon, tous ces personnels-là sont indispensables. Et de la même façon, dans l'enseignement, on n'imagine pas l'accueil des étudiants sans un secrétariat pédagogique, un secrétariat pédagogique motivé. Hein, en général, c'est aussi ces personnels-là qui sont aussi les premiers signaux d'alerte de dérive d'étudiants, par exemple. Un étudiant qui n'est pas venu chercher son attestation au bout de 15 jours, c'est la secrétaire qui le sait et qui peut avertir l'enseignant en disant celui-là, on se demande où il est, hein, il n'est pas venu. Bon, que ces personnels-là soient valorisés, c'est aussi important parce que ça fait partie effectivement de l'image de l'université et aussi de sa performance.
Alors de la même façon, l'accueil des étudiants dans l'université, la façon dont il est traité par les secrétaires, ouais, etc., l'environnement, c'est très important, d'où la première interface, c'est la première image aussi.
Tout à fait. Alors, ce qu'il faut, et ça, c'est quelque chose qui me tient fortement à cœur, c'est que il faut aussi redire régulièrement à ces personnels leur importance et leur dire aussi les attentes de l'université, de l'établissement dans ce domaine-là. Hein, c'est-à-dire que ça ne devienne pas, mais c'est vrai dans tout métier, hein, c'est-à-dire qu'il y a une tendance à s'installer dans une routine, et ben de temps en temps, cette routine, il faut lui redonner du sens, il faut lui redonner des perspectives d'évolution, et je pense que là, il y a, par exemple, sur les secrétariats pédagogiques, il y a un vrai travail d'animation de ces gens-là, hein, de ces personnels-là, qu'il faut qu'on mène.
Alors, en 30 secondes, Jean-Philippe, ouais, Cassard, est-ce qu'un vice-président donc chargé du potentiel humain, c'est aussi un DRH ?
Ça n'est pas un DRH. Nous allons recruter très prochainement un DRH. Moi, je suis là pour insuffler une politique. insuffler une vision du personnel, une vision de la valorisation de ce personnel, à la fois valorisation des individus et valorisation pour répondre aux missions de l'université.
Merci Jean-Philippe Cassard.